بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فللونج تاع الله سبحانه وتعالى de nous avoir comblé de 6 assises. Et lors du premier paragraphe, dans l'introduction de Cheikh Al-Utaymin rahimahullah, nous avons pris hier, nous avons vu hier qu'il a cité le verset شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Et la traduction approximative du sens de ce verset nous dit ceci: Allah atteste et aussi les gens et aussi les anges et les savants qu'il n'y a de digne d'être adoré qu'Allah, le mainteneur de la justice, ni digne d'être adoré que lui, le puissant qui fait les choses à la perfection. Une question peut effleurer l'esprit de tout un chacun parmi nous. Où est l'attestation d'Allah? Allah a attesté. Où est l'attestation d'Allah? Car tout un chacun qui atteste, c'est qu'il détient l'attestation. Les savants ont dit que l'attestation d'Allah subhanahu wa ta'ala est détaillée dans la révélation qu'il a faite à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et tu as à voir ceci dans le verset qui dit: لكن الله يشهد بما أنزله بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. Et donc, l'attestation d'Allah Azza wa Jal se trouve dans le Coran, comme disent les hommes de science. Et tu as médité ce verset où il est dit, dans la traduction approximative de celui-ci dit: mais Allah atteste avec ce qu'il t'a descendu. Il l'a fait descendre avec science. Et les anges attestent et Allah suffit comme témoin. Cela nous prouve l'importance du monothéisme. Allah atteste tout avec ce qu'il a descendu dans le Coran et ce qu'il a descendu comme révélation sur Muhammad alayhi salam, cette révélation qui contient les éclaircissements détaillés de la parole de l'unicité et les mérites du monothéisme. Et c'est de là que les savants ont pris que tout ce qui a été révélé à Muhammad alayhi salam comme Coran et Sunna, ce n'est que les détails et les droits de la ilaha illallah. Donc cette révélation, c'est un éclaircissement sur la parole de l'unicité et ses fondements et ses obligations. Cette parole de l'unicité qui est tout simplement le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala sans lui donner aucun associé. Donc le Coran et la Sunna nous détaillent le tawhid et ses récompenses. Il nous éclaire sur les qualités des croyants, monothéistes. Et il nous détaille aussi l'association et les caractéristiques des associateurs, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait subir dans ce bas monde et ce qui les attend dans le delà. Le Coran nous donne les preuves qui anéantissent les prétendues argumentations des associateurs. Toute la révélation est liée au monothéisme. Comment ne pas s'en occuper? D'où la parole de Cheikh Al-Utaymin et d'autres hommes de science digne de la voix des pieux prédisseurs d'Allah Alim qui disent: de toutes les sciences, la science du tawhid est la plus noble, la plus éminente, qui mérite le plus d'être étudiée, car il prodigue à la personne la félicité dans ce bas monde et dans le delà. Concernant ce verset, شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم, Ibn al-Qayyim رحمه الله dit dans le Miftah Dar al-Sa'ada: Allah a pris comme témoin les savants sur le plus grand et le plus noble des fondements de la religion qui est le monothéisme. Et cela est prouvé, et cela prouve les mérites des savants et de la science par plusieurs points. Et il a cité les points. Le premier point, il les a pris seuls comme témoins sans les autres humains. Le deuxième point, leur témoignage est cité avec le sien. Le troisième point, leur témoignage est cité après celui des anges. Le quatrième point, cela prouve les éloges d'Allah pour les savants et prouve leur dignité. Cinquième point, le fait qu'il les a décrits de savants prouve que la science est leur spécificité et que ceci, ce n'est pas quelque chose qu'ils ont emprunté, c'est quelque chose qui leur appartient. Sixième point, Allah a attesté par lui-même et puis par ses nobles créatures qui sont les anges et puis par les savants parmi ses soumis et ça, ça leur suffit comme honneur et comme mérite. Le septième point, il les a pris comme témoins sur la plus noble et la plus importante des choses qui est le monothéisme, l'attestation de foi, n'est digne d'être adoré qu'Allah. Et le majestueux, subhanahu wa ta'ala, nous prend comme témoin pour les grandes et nobles choses que les grands parmi les créatures. Le huitième point, il a fait, subhanahu wa ta'ala, que leur témoignage est une preuve contre ceux qui rejettent l'unicité d'Allah et qui rejettent l'adoration d'Allah. Ils sont comme une les hommes de science sont comme une argumentation sur le monothéisme. Fin de citation des paroles de Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi dans Miftah Dar Sa'ada. Tous ces points et les autres que je n'ai pas cités prouvent l'importance des hommes de science et prouvent aussi que nous devons les respecter, les honorer comme ils le méritent. Car ce sont les héritiers des prophètes alayhi salatu wassalam. Mais malheureusement, nous vivons à une époque où les insensés ont donné l'audace à des minus qui ne savent pas faire une phrase complète en langue arabe à dénigrer et à insulter les imams de cette époque comme Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayhi, ou Cheikh Al-Uthaymeen, ou Cheikh Al-Albani, ou Cheikh Rabi', ou Cheikh Ubaid et autres, et Cheikh Al-Fawzan, et Al-Luhaydan, etc. Allah al-Musta'an. Qala rahimahullah ta'ala fi al-faqrat al-thaniya min al-muqaddima الدين الإسلامي الدين الإسلامي هو الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم ختم الله به الأديان وأكمله لعباده وأتم به عليهم النعمة ورضيه لهم دينا فلا يقبل من أحد دينا سواه قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين قال رحمه الله وقد فرض الله تعالى على جميع الناس أن يدينوا لله تعالى به فقال مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار والإيمان به تصديق ما جاء به مع القبول والإذعان لا مجرد التصديق ولهذا لم يكن أبو طالب مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم مع تصديقه لما جاء به وشهادته بأنه من خير الأديان والدين الإسلامي متضمن لجميع المصالح التي تضمنتها الأديان السابقة متميز عليها بكونه صالحا لكل زمان ومكان وأمة قال الله تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه يقول رحمه الله ومعنى كونه صالحا لكل زمان ومكان وأمة أن التمسك به لا ينافي مصالح الأمة في أي زمان أو مكان، بل هو صلاحها. وليس معنى ذلك أنه خاضع لكل زمان ومكان وأمة كما يريده بعض الناس. والدين الإسلامي هو دين الحق الذي ضمن الله تعالى لمن تمسك به حق التمسك أن ينصره ويظهره على من سواه. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أن الله سبحانه وتعالى الشيخ العثيمين رحمة الله عليه نمونتر دون سيت دو سو دوزيام باراغراف dans ce deuxième paragraphe de cette introduction, il dit حفظه الله تعالى رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته. La religion musulmane est la religion avec laquelle Allah a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tel un sceau qui marque la fin de la révélation divine. C'est une religion qu'Allah a parachevée pour ses soumis, par laquelle il les a comblés de ses bienfaits et il l'a agréé comme religion pour eux. Allah n'accepte de personne une religion autre que l'islam. Et il est dit dans le verset qu'il a cité ici, dans la traduction approximative du sens du verset, Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais c'est le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Alayhi salatu wassalam. Et dans l'autre verset, dans la traduction approximative, nous dit ceci: aujourd'hui, j'ai parachevé votre religion et je vous ai comblé de mon bienfait et je vous agrée l'islam comme religion. Et dans l'autre verset, il est dit dans la traduction approximative du sens du verset: et quiconque désire une religion autre que l'islam, il ne sera point accepté de lui et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Et dans l'autre verset, il est dit dans la traduction approximative du sens du verset: la religion pour Allah, c'est l'islam. Il dit, rahmatullah alayh, Allah a ordonné à l'humanité entière d'adopter l'islam comme religion. Et il a dit, en s'adressant à Muhammad alayhi salatu wassalam, dont le verset dont la traduction nous dit ceci, la traduction approximative: ô humains, je suis pour vous tous le messager d'Allah à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Le culte doit lui être réservé uniquement. C'est lui qui donne la vie, qui donne la mort. Croyez en Allah, en son messager, le prophète illettré, qui croit en Allah et en ses paroles. Suivez-le afin que vous soyez bien guidés. Dans l'authentique du muslim, d'après Abu Huraira radiallahu anhu arda, le messager d'Allah a dit: par celui qui tient l'âme de Muhammad dans sa main, toute personne de cette communauté juive ou chrétienne qui entend parler de moi puis meurt sans avoir cru au message avec lequel j'étais envoyé, il sera parmi les gens de l'enfer. يقول رحمه الله يلدي رحمة الله عليه que signifie le fait de croire au messager عليه الصلاة والسلام. Il dit: cela consiste non seulement à reconnaître le message qu'il a apporté, mais aussi à s'y conformer, à s'y soumettre. C'est pour cette raison qu'Abu Talib n'était pas croyant en la mission du messager d'Allah, bien qu'il a attesté que c'était la meilleure des religions. La religion musulmane réunit tous les avantages présents dans les religions précédentes et se distingue des autres religions par le fait qu'il convient à toutes les époques et à tous les lieux et à toutes les communautés. Il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset: et sur toi, c'est-à-dire sur toi et à Muhammad. Et sur toi, nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur le livre d'avant. Il dit, rahmatullah alayh, lorsque l'on dit que la religion musulmane convient à toutes les époques et à tous les lieux et toutes les communautés, cela veut dire tout simplement que sa pratique n'est pas en contradiction avec les intérêts légiférés d'aucune communauté. Peu importe l'époque et peu importe le lieu. Au contraire, cette religion répond pleinement à leurs besoins et à leurs attentes. Et cela ne veut pas dire, comme certains le voudraient, qu'il varie, que cette religion varie et versatilise selon les époques, les lieux et les sociétés. Il dit, rahmatullah alayh, la religion musulmane est la religion de vérité. Et Allah a garanti à celui qui s'y attache réellement de le soutenir et de le placer au-dessus des autres. Allah a dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, c'est lui qui a envoyé son messager avec le Huda, la science bénéfique, et la religion de vérité, les bonnes œuvres, pour la placer au-dessus de toute autre religion, en dépit de la version des associateurs. Et dans l'autre verset, qu'il a cité, rahmatullah alayh, il est dit dans la traduction approximative du sens du verset, Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait bonne œuvre, qu'il les ferait succéder les uns aux autres sur terre, comme il l'a fait pour ceux qui les ont précédés, et qu'il donnerait la force et la suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux, et qu'il changerait leur peur en sécurité. Il m'adore sans me donner aucun associé, et celui qui m'y croit par la suite, ce sont ceux-là les pervers. Ici, la fin du deuxième paragraphe que nous avons lu en arabe de l'introduction de Cheikh Al-Uthaymeen. De l'introduction de la risala de Cheikh Al-Uthaymeen, rahmatullah alayh. Dans ce deuxième paragraphe, akhal islam, de l'introduction de cet érudit, rahmatullah alayh, dans cette risala, Cheikh rahmatullah alayh nous fait comprendre que l'islam, c'est la religion qu'Allah a agréée pour les mondes. Et que l'islam, c'est la soumission totale à Allah dans le monothéisme et la conformité dans l'obéissance avec ses ordres, d'être conforme à ses ordres, subhanahu wa ta'ala. Et que le fait de se cramponner à cette religion ne peut en aucun cas être en contradiction avec les intérêts légiférés d'une communauté, n'importe les lieux, les pays où il soit, et n'importe le temps où il vit. Quand une communauté se cramponne comme il se doit à cette religion d'Allah Azza wa Jal, seul Allah sait les bienfaits avec lesquels il sera comblé cette communauté, que ce soit dans l'immédiat dans ce bas monde, que ce soit dans l'au-delà. Partant de là, tu comprends, frère en Allah subhanahu wa ta'ala, la stupidité de ceux qui disent à leurs frères, rase ta barbe pour que tu puisses trouver du travail. Et qui disent, sœur, enlève le hijab pour que tu sois productif dans la société. Dans une liste longue de stupidité de ce genre. Et l'autre qui dit, vous devez vous intégrer et arrêter de faire peur aux gens avec vos vêtements, avec vos barbes. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. L'islam, akhal islam, quand il est cité dans l'absolu, il désigne cette religion avec laquelle Allah a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des prophètes et des messagers, qui contient, cet islam contient la pureté, la guidée, le bien, le secours des gens, la puissance des gens, leurs honneurs. Seul Allah sait ce qui est bien pour les créatures. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui sait ce qui est bien pour les créatures. Et c'est le seul qui sait ce qui va leur prodiguer le bien et les protéger du mal, subhanahu wa ta'ala. Qala azza wa jal, ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, ne connaît-il pas ce qu'il a créé alors qu'il est le compatissant et celui qui connaît toutes choses parfaitement. Cette religion musulmane, akhal islam, avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Muhammad alayhi salatu wasalam, contient les nobles buts de ce bas monde et de l'au-delà. C'est la religion avec laquelle Allah a honoré l'être humain. L'honneur de l'être humain, il est dans cette religion, dans sa soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala, et dans son obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et par le biais de cette religion, Allah subhanahu wa ta'ala a donné les honneurs et la puissance et la suprématie à celui qui s'y cramponne. Écoute ce qu'a dit le Farouk, radiyallahu anhu wa ardah. Nous étions humiliés. Allah nous a honorés et renforcés avec l'islam. Et si on cherche les honneurs et la puissance en dehors de l'islam, Allah nous humiliera. Il en est de même pour nous aujourd'hui. Et après aujourd'hui, nous devons être fiers de notre islam et de notre soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Et être reconnaissant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir acceptés dans la communauté de Muhammad alayhi salatu wassalam. D'être reconnaissant à Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir fait de nous. Et ceci se fait par le fait d'accomplir taqwa pour Allah subhanahu wa ta'ala, de mettre en application ses ordres et de s'abstenir de ce qu'il a interdit. Allah subhanahu wa ta'ala nous a honorés avec l'islam. Et ceci ne doit pas être une dissertation sur la langue, tout simplement. Mais ceci doit se concrétiser avec des actes. Des actes conformes au livre et à la sunna et à la voix des pieux prédécesseurs, radhiyallahu alayhim. Car, comme a dit l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, wa ghafara lahu wa askanahu fazi'a jannatih, nous réformera en bien la fin de cette communauté que ce qui a réformé en bien son début. Il n'y a rien qui va t'amener aux honneurs et à la puissance que la voie sur laquelle était Abu Bakr et Omar. Cette voie qu'ils ont héritée de Muhammad alayhi salatu wassalam. Ne cherche pas ailleurs, tu vas te perdre. Tu vas perdre ton énergie, ton temps. Hein? Et tu seras questionné devant Allah, Azza wa Jal, pour le temps et la vie que tu as passé dans l'errance, en dehors de la voie de Muhammad alayhi salatu wassalam, du sénible compagnon. L'islam, c'est la religion avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a honoré l'humanité entière. Le blanc, le noir, le jaune, hein, et aussi le jinn. Et c'est la religion qu'Allah a parachevée. Il est complète. Et c'est une voie complète. Personne, peu importe le degré de son intelligence et le degré de sa culture, et le degré de sa science ne peut y déceler une contradiction. Sauf ceux qui ont des maladies dans le cœur, et ceux qui ont la maladie dans le cœur, on n'y peut rien. Il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui guide les cœurs, et qui guérit les cœurs. Il est dit dans le verset il est très clair. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, je vous ai parachevé votre religion. Et nous avons à méditer cette compréhension minutieuse et saine avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a comblé le prince des croyants au niveau du hadith, l'imam Bukhari rahimahullah ta'ala wa ghafara lah. Quand l'imam Bukhari, dans le recueil des authentiques, Sahih al-Bukhari, est arrivé au livre Al-i'tisam bil-kitab wa sunna, se cramponner au livre et à la sunna. Il a commencé ce livre par ce titre, par le hadith du juif, qui a dit à Omar ibn Khattab, ô prince des croyants, un verset vous a été descendu, s'il était descendu sur nous autres juifs, nous aurions pris le jour de sa descente comme jour de fête. Omar lui a dit, radiallahu anhu arda, quel verset? Tu parles de quel verset? Le juif a dit, aujourd'hui je vous ai parachevé votre religion. Omar a dit, je connais le jour et le lieu où il est descendu ce verset. Il est descendu un vendredi, jour de Arafat, durant le pèlerinage d'adieu du messager alayhi salatu wassalam. Les hommes de science disent que le Bukhari, rahimahullah, quand il a commencé le livre de l'I'tisam par ce verset, il veut attirer l'attention de la communauté sur le plus grand des moyens qui mène vers la perte et qui mène vers l'égarement. Et ce grand moyen et cette grande cause qui mène vers la perte et l'égarement, c'est simplement le fait de délaisser la voie sur laquelle était le messager et ses compagnons, radouanullah alayhim. Et le fait de délaisser cette voie de ses nobles compagnons, radouanullah alayhim. Et de délaisser cette voie qui était basée sur une religion qui a été parachevée par Allah subhanahu wa ta'ala, avec laquelle il a comblé la communauté de ses bienfaits. Et là, médite, frère Allah subhanahu wa ta'ala, la position de Omar ibn Khattab. Médite son acte. Pour que tu comprennes qu'on est obligé de prendre la compréhension de cette religion comme ils l'ont interprété, radouanallah alayhi, et selon leur compréhension. Et que ceci, c'est une obligation pour sortir de l'impasse. Et pour ne pas être en divergence avec la parole d'Allah et la sunna du messager, alayhi salatu wassalam. Car si on dévie de leur voie, on est perdu, on a perdu. Regarde qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agré. Quand le juif lui a dit, nous aurions pris le jour de la descente de ce verset comme jour de fête, il lui a dit ça pourquoi? Parce que eux, les juifs, suivent leur passion, font ce qu'ils veulent dans la religion d'Allah. Et innovent ce qu'ils veulent, comme ils veulent, fête ou pas fête ou autre, il n'y a pas de problème. Quant à Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu arda, lui, il est conditionné par sa soumission à Allah et par le suivi du messager, alayhi salatu wassalam. Il n'a pas dit, puisque le juif a dit cela, qu'on fasse du jour de la révélation de ce verset un jour de fête. Il ne l'a pas dit. Il a tout simplement reconnu que c'était descendu le jour de Arafat, et en plein, un vendredi, plein jour de Arafat. Et comme il dit maintenant la situation de certains uns sont ceux qui nous entourent et qui sont des leaders au milieu de cette communauté francophone. Comment ils inventent la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et qu'on les compare à la position de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu wa arda. Hada l'une des têtes. Ce qu'ils appellent ici les GMF, ou la GMF, des têtes d'Ikhwan musulmans, cette secte qui a fait faillite dans la politique, qui est une secte qui innove dans la religion d'Allah Azza wa Jal, ce qui n'existe pas. Il a dit ici, en France, nous devons créer un calendrier sur le calendrier qui existe. Vous connaissez le calendrier de la poste sur lequel il y a le jour, un jour, Sainte Marie, Sainte Bidine, Sainte Kada. Il a dit la même chose. Nous devons avoir un calendrier aussi dans lequel on mettra Al-Ghazali, Sayyid Qutb, Al-Banna, Al-Khomeini, Averroès, Avicenne, Imagine-les-nous. Un éclaté derrière un autre. Et médite. Médite ces noms. La tête de la mécréance, le Khomeini, innovateur, pré-innovateur, après innovateur. Fa, dans ce hadith avec lequel Bukhari, rahimahullah, a commencé le livre de l'I'tisam, il y a de grandes leçons à retenir. Parmi les leçons qu'on en déduit les hommes de science, ce hadith prouve que si on veut être sauvé, il faut obligatoirement se cramponner à la voix des salafs et à leur compréhension. Mais dites, quand le juif a annoncé ce qu'il a annoncé à Omar, Omar n'a rien inventé, n'a rien changé, hein, n'a rien rajouté à la religion d'Allah, ni au fait, rien du tout. Hein? Car Omar fait partie de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrit ainsi dans le Coran. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا رضي الله عنه وارضاه car Omar fait partie de ces hommes qui ont été décrits ainsi dans ce verset. Dans la traduction approximative du sens du verset nous dit ceci: parmi les croyants, des hommes qui sont véridiques dans leur engagement envers Allah. Certains sont arrivés à leur fin, c'est-à-dire ils sont morts, et d'autres attendent sans rien changer. Ils n'ont rien changé dans leur engagement, ni dans la religion d'Allah Azza wa Jal, rien du tout. Hein? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée. Ce verset vers lequel a attiré l'intention le juif nous apprend clairement que la religion est parachevée avant la mort de Muhammad alayhi salatu wassalam. Et partant de là, on comprend la stupidité de l'une des grandes figures de Tabligh, une des grandes têtes, la deuxième, après le fondateur, qui a dit, on n'a pas innové dans la religion, mais on a innové pour la religion. Subhanallah, c'est comme si la religion a besoin de l'innovation pour être propagée. Comment ça ? On n'a pas innové dans la religion, mais on a innové pour la religion. Hein, comme si la religion a besoin d'innovation pour qu'il soit accepté. Et l'autre, dans cette secte de calamité qui est la secte des Rouhani musulmans, il faut renouveler les définitions de la religion. Comme si les définitions qu'ont données les nobles compagnons ne servent plus. L'ayadan billah. Périmé. A'oudou billah. Il faut renouveler les définitions de la religion et faire évoluer et moderniser les styles et innover des styles qui correspondent à l'époque. Hein? Wa rabbuna yaqul, ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Et notre souverain, dans cette traduction approximative du sens du verset dit, hein, ne connaît-il pas ce qu'il a créé alors qu'il est le compatissant et celui qui sait tout et rien ne lui échappe? ويقول سبحانه وتعالى قل أنتم أعلموا أم الله أنتم أعلموا أم الله. Est-ce que c'est vous qui êtes plus savants ou c'est Allah? Donc le verset aujourd'hui je vous ai parachevé votre religion prouve que la voie sur laquelle était le prophète alayhissalam et ses compagnons, c'est la religion complète. Au niveau des croyances, au niveau des adorations, au niveau des lois, au niveau des comportements, au niveau des transactions, au niveau des relations avec les autres, et à tous les niveaux. Et cela est clarifié par la parole d'Allah. Comme quoi, ces dînes, ils étaient sur un juste milieu. Et dans une religion de juste au milieu, et qu'ils étaient une communauté de juste au milieu. Et c'est eux en priorité qui rentrent dans ce verset. قال عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Et c'est eux, ces nobles compagnons, qui y rentrent en priorité. Hein? Dans la traduction approximative, nous dit ceci de ce verset, vous êtes la meilleure des communautés qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait exister pour les gens. Vous ordonnez le bien et le convenable, et vous blâmez le mal et le blâmable. Et vous croyez en Allah. Donc l'origine et la base de l'excellence de cette communauté, c'est dans sa religion, dans la religion complète sur laquelle était le prophète alayhi salatu wasalam et ses nobles compagnons. Cette religion qui n'accepte ni le rajout ni la diminution. Le verset il est clair aujourd'hui, je vous ai parachevé votre religion. Cela veut dire que ce verset annule tout ce qui a été immiscé dans cette religion musulmane et dans les croyances de celle-ci. Et dans les croyances de celle-ci, tout ce qui n'a pas été connu chez les compagnons est nul. Il est à annuler, à ne pas prendre en considération. Hein? Et tout ce qui ne vient pas des enseignants, des enseignements de Muhammad alayhi salatu wasalam et de la voix de ses nobles compagnons, radhiallahu alayhim, il est nul. Et qu'il faut le mettre de côté, s'en éloigner. Au point que ce qui a été émissé dans la religion, maintenant, et ce qui a été innové à ce niveau-là, et surtout au niveau des croyances, représente aujourd'hui des écoles qui ont dit non. Dont le point en commun, hein, c'est la scolastique. Ce mélange de philo et de théologie chrétienne. Hein, il appelle ilm al-kalam. Et cette scolastique, c'est la base principale de la division et de l'errance de cette communauté. Depuis qu'il s'est immiscé à l'époque des Abbasides dans la communauté Khlas, hein, l'égarement a commencé. Et les idées destructives qui sont en contradiction avec la voie des nobles compagnons d'Allah alayhim se sont émissés. Ce verset aujourd'hui, je vous ai parachevé votre religion, nous impose de mettre en application le livre d'Allah et la sunna de son prophète alayhi salatu wasalam selon la voie et la compréhension du pieux prédécesseur d'Allah alayhim. Pour ceci, être conforme, pour qu'on nous soyons conformes avec l'ordre d'Allah, qui a dit dans le verset, Ya ayyuha alladhina amanu, ati'u Allah, wa ati'u Rasul wa uli al-amri minkum. Agir ainsi, c'est être conforme avec ce verset qui dit dans sa traduction approximative du sens, ou vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez à son messager et à ceux qui détiennent le pouvoir parmi vous. Et parmi les hommes qui détiennent le pouvoir dans cette communauté, il y a les hommes de science. Et les savants qui rentrent, hein, dans Ulil Amr en priorité, ce sont les nobles compagnons d'Allah, ce sont les premiers savants de cette communauté. Et ce sont les meilleurs des savants de cette communauté, et l'élite de la communauté des savants, c'est les nobles compagnons d'Allah. Donc ce verset nous oriente aussi vers le fait de les suivre. Ridwanullah alayhim. Cette élite, comme il nous a transmis les textes du Coran et de la Sunna, comme il se doit, ils nous les ont transmis aussi avec leur réelle définition et leur réelle signification et leur réelle façon de les pratiquer. Ridwanullah alayhim. Ils ont transmis les textes et montant leur signification et aussi comment les pratiquer. Comment les mettre en application, ridwanullah alayhim. Donc il est obligatoire pour nous de les suivre. Et il ne nous est pas permis d'être en divergence avec eux, ridwanullah alayhim. Les preuves dans la parole d'Allah sont nombreuses. Et dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Qala azza wa jal, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان. رضي الله عنهم ورضوا عنه. Les premiers parmi ceux qui ont quitté la Mecque. Pourquoi ? Pour sauver leur religion. Et l'Ansar, les alliés qui les ont accueillis à Médine, ceux-là, ces deux catégories ont réuni les conditions pour avoir la satisfaction et l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'il y a une troisième catégorie qui peut nous permettre d'en rentrer dans cette satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la suite du verset qui dit, et ceux qui les suivent à la perfection, Allah les agrée et eux ils agréent ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur réserve. Donc pour arriver à la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, il est obligé de passer par la voix de Abu Bakr, de Omar, de Uthman, d'Abu Huraira, de Hafsa, de Aisha, de Muawiyah, Ridwanullah alayhi majma'in. Obligé. L'autre verset. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. L'autre verset, il dit dans la traduction approximative du sens du verset, celui qui prend un autre chemin que le chemin du prophète, après avoir reçu les preuves et les éclaircissements, et qui suit un autre chemin que le chemin des croyants, nous allons nous faire l'alliance avec ceux avec qui il a cherché alliance, et sa demeure sera le feu de l'enfer. Donc, la voix des croyants qui est citée dans le verset Sabil Mu'minin, en priorité, c'est la voix des nobles compagnons d'Allah Alim. Ce sont eux la première génération de l'islam. Ce sont eux sur lesquels est descendu, à leur époque est descendu le verset. Personne d'autre. Ce sont eux les premiers qui y rentrent dedans. Sabil Mu'minin. Sabil Mu'minin représente la voie sur laquelle étaient les nobles compagnons d'Allah alayhim. Que ce soit au niveau des croyances, ou au niveau de l'adoration, ou à tous les niveaux, au niveau de la compréhension. Pourquoi, akhi l'islam, obligatoire de se cramponner à cette voie et de la prendre et ne pas en dévier? Car ces nobles compagnons ne peuvent pas rater la vérité, et que c'est eux, et que ceux qui sont venus après eux ne peuvent pas détenir la vérité que les compagnons n'ont pas eue. C'est impossible. Les compagnons ont vécu avec le prophète alayhi salam, ne détiennent pas la vérité. Et c'est ceux qui sont venus, quatre générations après au plus, qui ont la vérité. A'oudou billah. Abadan akhal islam. Et celui qui croit que les compagnons n'ont pas la vérité, que ce sont ceux du 4e siècle et 3e siècle qui ont cette vérité, celui-là est un ignorant. Et il est atteint d'une ignorance composée. Une ignorance composée du livre et de la sunna. Il baigne complètement de la tête aux pieds dans l'ignorance. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Médite cette histoire. L'imam Ahmad rahimahullah. Quand l'imam Ahmad rahimahullah subissait les mauvais traitements que lui faisaient subir certains khalifs abbassides poussés par certaines têtes de la Jahmiya et certaines têtes de l'innovation qui voulaient propager dans la communauté cette fausse croyance comme quoi le Coran c'est une créature, comme quoi le Coran il est créé, l'iyadan billah. L'imam Ahmed, l'imam des gens de la Sunna par excellence, le deuxième véridique de cette communauté, ainsi il a été appelé, radiyallahu anhu arda, l'imam Ahmed leur a dit, est-ce que le messager d'Allah savez cette aqida vers laquelle vous appelez maintenant vous? Est-ce que l'un de ses compagnons la connaissait aussi? Il l'a propagé, il l'a appelé vers cette aqida que, vers laquelle vous appelez maintenant? Et là, ils n'ont rien su répondre. Ils n'ont rien su répondre. Ils sont restés bouche bée. Comment tu peux répondre? C'est une invention complète sur laquelle n'était pas le prophète alayhi sallam ni ses nobles compagnons. Tu imagines la situation dans laquelle ils étaient? Riyadan billah. Cela veut dire, si le prophète ne la connaissait pas, et qu'aucun compagnon n'a appelé les gens vers cette aqida, cela signifie que c'est quelque chose que vous avez innové dans la religion d'Allah. Et ceci doit être dit, ce qu'il a dit l'imam Malik, doit être dit à tout innovateur. Tout un chacun qui ramène une opinion, une idée, une croyance sur laquelle n'était pas le messager alayhi salam, il faut le mettre devant cette question. Est-ce que le prophète le savait? Est-ce que les compagnons ont appelé à ce que tu viens de nous dire? Hein? L'imam Malik rahimahullah, écoute ceux qui ont suivi les nobles compagnons et qui ont eu l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala d'être guidés, ils ont été guidés vers la voie de ces nobles compagnons d'Allah alayhim. L'imam Malik dit rahmatullah alayhi, ce qui n'a pas été une religion hier, c'est-à-dire à l'époque des nobles compagnons, ne sera pas une religion aujourd'hui. Il a pris comme argument le verset « Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati » « Aujourd'hui je vous ai parachevé votre religion et je vous ai comblé de mon bienfait. » Il n'est pas allé plus loin. Il s'est arrêté là. Hein? Et le verset est une règle. Est une règle qui stoppe toute forme d'innovation dans la religion d'Allah Azza wa Jal. Et tu as à méditer ce qui vient après le verset. « Al-yawma akmaltu lakum dinakum » Ils viennent après. Et je vous ai comblé de mon bienfait. La grâce était au comble quand? La grâce était au comble une fois que la religion a été parachevée, complétée. Ici, il a dit ni'mati. Il est au singulier et il est mudaf. Hein? Un singulier annexé. Cela signifie, c'est les hommes de science que c'est général, c'est-à-dire beaucoup de grâce. Hein? Signifie que c'est une grâce générale. Hein? Qui englobe beaucoup de choses avec lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a comblé la communauté. Une fois que la religion était complète. Regarde, médite. Les grâces avec lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a comblé le messager et ses nobles compagnons. Et ces grâces avec lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a comblé le messager et ses nobles, on ne peut pas les limiter et les comptabiliser. Il leur a donné la sécurité après la grande peur, après les effrayeurs, après tout ce qu'ils ont subi. Ils ont eu la sécurité. Ils ont eu le soutien d'Allah. Ils ont eu la force et la puissance après la faiblesse. Ils ont eu le pouvoir et ils ont eu l'union et d'autres grâces qu'on ne peut pas limiter. Dans ce bas monde, avant le delà, et dans le delà, ce qui les attend, c'est encore. Et donc, le verset « Je vous ai comblé de mon bienfait » est une preuve claire que toute personne et tout groupe qui veut réformer la situation de cette communauté en bien, aujourd'hui et après aujourd'hui et dans le futur, s'il ne prend pas la voie du prophète alayhi salam et de ses nobles compagnons, et s'il n'appelle pas les gens vers les choses vers lesquelles le prophète les a appelés, ses nobles compagnons d'Allah alayhim, ben il n'arrivera pas à réformer la communauté. Ça ne sera que du temps perdu et de l'énergie perdue. Et peut-être des moyens qui vont être perdus. Hein, jetés par la fenêtre. Hein? Et encore moins, il n'aura la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Parce que la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala, arrive avec une religion parachevée. Hein? Comme il est dit dans le verset. Hein? Et nous devons avoir la certitude là-dessus. Et avoir toujours en face de nous la parole de l'imam Malik rahimahullah. La fin de cette communauté ne sera réformée dans le bien que par le biais de ce qui a fait la réforme de son début. Rien d'autre. Pas chercher à midi à 14h. Abadan. C'est de la perte du temps et la perte d'énergie. On sort de la voie des nobles compagnons, khalas, on est perdu. Cette chose que beaucoup de la communauté n'ont pas compris, les ennemis d'Allah l'ont comprise. Tu as médité ici, là où tu vis, là, en France. Comment les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala ont instauré la peur de la voix du noble compagnon chez les, la masse musulmane, avant de dire les autres. D'abord chez la masse musulmane. Et chez certains, hein, qui se cramponnent à la sunna. Hein? Regarde, tu as médité un tweet d'un des parlementaires. Il tweet dans son tweet, l'État a le droit de prendre les enfants des foyers qui éduquent leurs enfants avec la salafia. Au moins, ils disent pas la salafia, ils disent le salafisme, parce qu'il faut faire peur. Il faut rajouter un isme, un ist, etc. Hein? Et regarde cette peur et cette diarrhée mentale avec laquelle certains de nos frères ont été atteints. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Hein? Et ceci n'est pas nouveau. Depuis l'aube. Hein? Depuis l'aube, depuis chaque fois que se lève un réformateur qui veut appeler les gens vers la voie du prophète alayhi salam et ses compagnons, les barrières et les calomnies et, hein, qu'est-ce qu'on dit pas sur son dos et qu'est-ce qu'on on propage pas comme calomnie sur son dos pour le défigurer, défigurer son image, défigurer, défigurer son message. Écoute cette histoire, qui est une histoire réelle. C'est pas, il était une fois dans la citadelle des rêves. Là, c'est une réalité. Dans le territoire occupé. Un jour, un homme vint voir Cheikh Nasser Dil Albani, rahmatullah alayh. Ce soir, il remonte, il y a peut-être plus d'un demi-siècle. Et il raconte à Cheikh Nasser Dil Albani l'histoire d'un jeune prêcheur dans la région de Khan Yunus, en territoire occupé. Ce jeune prêcheur, il appelle vers la voie des salafs. Mais dans son prêche, lui, il ne dit jamais la salafia ni la voie des salafs. Il dit Abu Bakr, Omar, Uthman. Il dit la voie, hein, il cite les noms des compagnons comme ça. Parce qu'il sait à l'avance que s'il prononce le terme salafi, il va être emprisonné. Un jour, le gouverneur de Khan Yunus le convoque. Dans la salle où la réunion a été prévue avec lui, il y avait les gradés de l'armée, les gradés de la sécurité nationale, les... tout était là. Il était au milieu, imagine, au milieu et au milieu de tous ces gens, quelques, ah, des galants sur les épaules avec leur trier militaire et allez, et commence à lui poser des questions. C'est quoi cette dawa vers laquelle tu appelles? L'autre de l'autre côté, l'autre de l'autre. Il essaye de dire, Al-Sunna ul-Jama'a, Kada, la voix d'Abu Bakr, la voix de... Il essaye parce qu'il sait que le mot qui va l'amener à la guillotine, c'est ce mot salaf. Il a essayé par tous les moyens. Et tout d'un coup, le pire parmi ceux qui étaient présents se lève et lui dit, regarde-moi bien en face. Tu as la voix d'établir. Tu as la voix de Hizb Tahrir. Tu as la voix des frères musulmans. Appelle vers n'importe quelle voix que tu veux ça. Mais on ne te laissera jamais appeler vers la voix d'Abu Bakr ni d'Omar. On ne te laissera jamais. Quand Cheikh Nasser Dil Albani a entendu ça, il a dit, subhanallah, les ennemis d'Allah ont compris ce que beaucoup de musulmans n'ont pas compris. Et il a dit, est-ce que la voix d'Abu Bakr, il est dans la voix d'Al-Tabligh? Est-ce que la voix d'Omar et d'Abu Bakr, il est dans la voix d'Hizb Tahrir? Ou là des frères musulmans? Abadan. Qu'on se réveille. Et qu'on sache ce qu'il y a derrière tout ce qu'on omet, avec lequel on fait peur aux gens, etc. Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est simple, parce que cette voix, il fait peur. Il fait peur, pourquoi à l'ennemi d'Allah et même aux innovateurs? Les innovateurs, parce que ça les dévoile Et ça montre leur réalité, hein, telle qu'ils sont, et la réalité de la voie sur laquelle ils sont. Quant aux ennemis d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ils savent très bien que la suprématie, les honneurs, la puissance, elle est là. Et tant que la communauté musulmane est loin de cette voie, hein, il ne peut pas s'inquiéter. Donc tous les moyens sont utilisés mondialement pour éloigner la communauté. Et on regarde ce qui se passe même dans le monde musulman. L'influence est tellement énorme que même dans le monde musulman, tu as des gens, ils ont peur du terme. Hein? C'est-à-dire que l'ennemi d'Allah est arrivé au but qu'il voulait. Hein? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. L'islam, et revenons avec cette question, c'est quoi l'islam qu'Allah a agréé pour nous? C'est quoi l'islam qu'Allah veut pour l'humanité? Car les prêcheurs vers l'islam sont nombreux. Et les définitions de l'islam sont différentes d'une tendance à une autre. Hein? Et beaucoup de ces définitions sont en divergence avec le livre et avec la sunna et la compréhension et la voie des pieux prédisseurs d'Allah alim. Le seul islam, akhal islam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, c'est l'islam sur lequel était Muhammad alayhi salatu wassalam, ses nobles compagnons et ceux qui les suivent à la perfection. Tu veux ton salut, akhal islam, dans ce bas monde, dans le delà. Tu veux la quiétude intérieure. Tu veux la félicité dans ce bas monde et dans le delà. Tu veux les grâces d'Allah Azza wa Jal. Ben, tu dois te cramponner à la voie sur laquelle était Mohammed alayhi salatu wassalam et ses nobles compagnons. En dehors, ce ne sont que des, hein, regarde. Regarde. Les hésitations qu'ont certains. Comment ils, les doutes que certains ont, etc. Et quand tu regardes, ben, tu vois, il y a un manque dans l'accomplissement de la religion sur laquelle était Mohammed alayhi salatu wassalam et ses nobles compagnons. Hein? Il y a une certaine négligence à l'apprentissage de cette voie et de cette religion. Et il y a aussi le fait que, comme la masse, c'est elle qui, hein, qui est nombreuse, c'est certain, il y a une forme de se sentir petit ou un complexe d'infériorité par rapport à cette grande masse. Alors que la réalité, non. Si on se cramponne et on étudie l'aqidah de nos pieux prédisseurs d'Allah alayhim, ben on sortira de ce complexe. Et on lèvera la tête avec. Et on fera prévaloir les sunnas du messager alayhi salatu wassalam, si nous le compagnons là où nous soyons. Et où que nous soyons. Parce que c'est ça, la porte du salut, et la porte des honneurs, et la porte de la puissance de cette communauté. Et il est de notre devoir de changer, nous les premiers, pas regarder les autres. Hein? Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin, hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Le verset, il est clair. Allah ne change rien pour un peuple tant qu'eux-mêmes ne changent pas. Souvent, on a peur et on est incertain parce que l'autre, il ne fait pas. Et après, tu ne t'occupes pas de l'autre. Tu sais, mets en application. Tu sais que c'est ça. Khlas, si tu y cramponnes. Parce que si tu sais et tu ne le mets pas en application et tu t'en détournes par une raison, par une autre, il faut avoir peur de ne pas tomber dans la caractéristique de ceux qui encourent la colère d'Allah. Connaître la vérité et ne pas la mettre en application, voilà, c'est une situation qui est très grave, alors que nous lisons dans chacune de nos rak'at. Et nous ne voulons pas être dans la voie de ceux qui encourent la colère d'Allah. Pourquoi ils encourent la colère d'Allah? Parce qu'ils ont la vérité, ils ne la mettent pas en application. Ils la connaissent. Alors, akhi l'islam, toute vérité que tu connais, que tu mets de côté, tu esquives par une raison, tu essaies de te justifier ou tu trouves des excuses, sache que, et, hein, sache que là, c'est un chemin qui est très dangereux, qui peut amener très loin, qui peut amener à la colère d'Allah. Hein? Et si nous voulons les grâces et les bénédictions d'Allah, il est obligé de se comporter comme il se doit à cette religion complète et parachevée. Face à Allah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, Biasma'i al-Husna, wa sifati al-Ula, Jannah wa iyaakum min al-ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, innahu waliyu dhalika wal-qadiru alayh, wa asaluhu subhanahu wa ta'ala an yukhrijana wa iyaakum min hadhihi al-bilad al-kafir ahluha, wa jannah wa iyaakum, wa yarzuqna wa iyaakum al-fahma fi al-deen, wa al-tabata alayhi ila an nalqah, wa subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله فيكم جزاكم الله خيرا